mais aussi du monde. Laurence Aloua, Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans cette session live qui reçoit deux formations aux dessins assez différents. L'une souhaite faire danser son public jusqu'à la transe, sans un mot, c'est le groupe suisse L'Éclair. L'autre véhicule son humanisme par la musique avec parfois quelques mots de Patrick Chamoiseau ou d'Amiri Baraka. C'est le groupe Acme Motion en piste avec le titre New York Calling. Bonsoir messieurs.
Aucun migrant ne transporte un pays, une culture, un absolu de langue, une religion complète. Uniquement les combinaisons utiles à sa survie. L'alchimie de la mondialité où s'abreuve sa vision. Ces combinaisons circulent d'expérience individuelle en expérience individuelle sans que l'une soit identique à l'autre. Dès lors, en relation, on est toujours neuf pour l'autre. Et l'autre est toujours neuf pour nous. L'expérience évolutive qu'est désormais l'autre ne saurait être élucidée une fois pour toutes, identifiée ni d'emblée ni d'avance. Elle est à découvrir, souvent à constater, non pas à mettre en transparence, mais à vivre telle qu'elle, en relation.
Actimotion sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde. La session live.
Motion, le nouvel album s'appelle Migration 2, ça veut dire qu'il y a eu un Migration 1. Alain Brunet était à la trompette et récitant, donc c'était la voix. Jean Gros à la guitare, Mike Armand-Gomme à la basse et Pascal Boutrin à la batterie. Je ne vous ai pas entendu là, sur ce morceau, Pascal. En général, vous aidez votre camarade Alain Brunet, mais pas sur ce coup-là. Alors Migration 2, c'est votre quatrième album. J'ai lu dans votre bio que c'était votre manière à vous d'apporter une vision positive du monde et de l'humanité. Et que vous voyez la migration comme un acte d'émancipation, un acte de partage, c'est le faire avec d'autres. Donc pour vous, la musique, c'est une forme d'activisme, si j'ai bien compris, avec ce groupe-là, Alain Brunet.
Oui, on peut le dire comme ça.
Dites-le comme vous voulez.
Certes.
Je vous laisse.
Et la migration, c'est d'abord, pour beaucoup de gens, quelque chose de contraint. S'ils quittent le pays où ils vivent pour aller à la recherche de monde meilleur, c'est d'abord parce que le pays dans lequel ils vivent est invivable. Il est en guerre, il est en proie à des dictateurs, et c'est une migration qui est contrainte. Et je veux dire qu'on est tous d'accord pour considérer que, de ce point de vue, la France, comme beaucoup d'autres pays européens, est lamentable dans la façon de gérer les gens qui viennent chercher tout simplement la paix, qui viennent chercher éventuellement du travail, qui viennent vivre. On a le droit de vivre quand même. On a le droit de vivre dans un pays en paix. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, à rebours de cela, c'est ce qui nous a fait prendre conscience. On a eu la chance de beaucoup voyager dans le monde entier.
Surtout
on a joué dans les tribus Kanak. Non, tous les quatre. Dans les tribus Kanak, on a fait tout Pacifique Sud, l'océan Indien, dans plein de pays. On a joué avec beaucoup de musiciens. On a toujours été magnifiquement accueillis. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous venez de lire correspond à ce que nous vivons, nous, quand nous migrons, entre guillemets, si je puis dire, quand nous allons voir d'autres univers, quand nous allons nous confronter. C'est pour le plaisir, c'est pas du tout parce que nous sommes pas bien en France. Donc voilà, il y a cette espèce de vision un peu contrastée des deux qui nous a amené à travailler, à creuser cette question. Et le bouquin de... J'en termine pour que Pascal dise un mot. Le bouquin de Chamoiseau, pardon, est tombé vraiment pile parce qu'il dit des choses tellement fortes. Il le dit avec une langue d'une pureté, d'une qualité que, voilà, on n'a pas pu s'empêcher d'en tirer quelques extraits.
Sur ce morceau New York Calling, vous récitez un extrait de Frères Migrants de Patrick Chamoiseau, c'est ça ?
Exactement.
Je rappelle que Patrick Chamoiseau est un grand auteur antillais qui a eu le prix Goncourt en 92 pour Texaco. Il a travaillé avec Jean Bernabé et Raphaël Confiant pour la création du Manifeste de la Créolité. Évidemment, c'est un ami, évidemment, c'est un disciple d'Édouard Glissant. En quoi vous reconnaissez dans la manière de penser de Patrick Chamoiseau ? Est-ce que vous êtes aussi un peu comme les écrivains des Caraïbes dans ce tout monde ?
Oui, d'une certaine manière, on est très sensible à dire sa poétique. Il y a une force du verbe qui correspond bien à ce que l'on ressent, vraiment. Et c'est une façon de poétiser, si je puis dire, ces questions dramatiques. Nous le faisons avec la musique, à notre manière, lui le fait avec le verbe. Évidemment, le verbe a une force que nous n'avons pas. Mais voilà, on essaye d'accompagner en quelque sorte les choses.
Pascal Boutrin, vous êtes le batteur, mais aussi vous faites du méditation drum, percussion qui amène à la méditation. C'est pas le propos aujourd'hui, mais enfin je le signale quand même au passage. Vous êtes également plasticien. Quel est votre rôle dans le groupe Acpemotion ?
J'ai créé Acpemotion en 2004 à la suite d'un voyage au Togo. Et ce qui m'importe dans la musique, comme je dirais dans les arts plastiques aussi, c'est la couleur. La couleur, et je crois qu'avec Acpemotion, depuis que j'ai rencontré Alain, donc en 2008, j'aime cette mise à nu dans la musique, quelque part, aller vers des directions musicales, mais sans pour autant être dans des formats. Donc, c'est une migration sonore, quelque part aussi. Ce groupe, cette palette que nous essayons de mettre en place, aussi bien avec Jean Gros, parce que New York Calling, c'est une composition de Jean Gros à la guitare.
Qui en général joue avec un archer, aujourd'hui il est en chaussettes.
Exactement.
Chaque jour c'est cool.
Archer au pied nu, c'est un physicien de la guitare,
oui.
J'aime bien ce terme.
Physicien de la guitare, ça vous va, Alain Brunet ?
Oui, c'est un coloriste, oui, pourquoi pas, physicien de la guitare, c'est pas...
Vous êtes Miles Davis friendly, on a bien compris.
Oh. Voilà,
je parle
donc,
à M. Brunet qui a un CV impressionnant.
Oui, donc quelque part, vraiment, l'idée d'ACP, c'est ça, c'est partir sur un chemin sous forme d'une improvisation, d'une mise à nu, d'aller chercher des riffs, des mélodies, des couleurs, essayer d'arriver à sortir quelque chose à travers ces couleurs sonores. Et il est vrai que la thématique de la migration, je pense qu'elle nous va bien. Elle nous va bien aussi bien dans ce qu'évoquait Alain il y a quelque temps, mais aussi dans les rencontres, dans le métissage. Il est important pour nous, en musique du moins, c'est d'aller se confronter à d'autres cultures musicales, comme on a pu le faire avec un ami d'ailleurs qui est ici présent, Paul Garrett, un trompettiste d'Atlanta, qu'on a rencontré lors d'une petite tournée parce que je faisais une exposition à Atlanta il y a quelque temps. Voilà, on aime bien cette idée vraiment de partage et de faire de la musique sans trop intellectualiser vraiment l'idée, quoi.
Il y a également dans votre groupe Mike Armogum qui est à la basse. Il est originaire de l'île Maurice. Il y a un autre bassiste mauricien assez connu qui s'appelle Lynn Lemart.
Lynn Lemart, oui.
Oui, évidemment. Oui, en effet, oui. Qui est sur tous les disques et qui est un bassiste mauricien dans le quartier. C'est Lynn Lemart. Il va falloir compter avec Mike Armogum dorénavant. Ce projet, donc ACP Motion et non pas Motion, comme je disais en début d'émission, c'est un groupe et une musique qui pourrait se traduire comme un manifeste, quand vous allez jouer à l'étranger, quand vous allez présenter votre travail à d'autres musiciens, à un autre public, à des gens qui ont une vie totalement différente de la vôtre, à l'heure où vous dormez, ils sont debout, l'autre bout du monde, etc. Est-ce que c'est un moyen aussi d'être un trait d'union, de pouvoir dire je viens en paix, je suis terrien comme vous et moi ?
Oui, je crois que quoi qu'il en soit, la musique a ce regard-là, quelque part, où que nous soyons.
Il y a des musiques de guerre aussi. Hein.
Il y a les musiques de guerre, mais
musique
bon.
Musique militaire, quoi.
Oui, mais bon. Nous ne sommes pas
c'est
là
pas
pour
notre cas.
Oui.
Non, voilà, quelque part, je crois que ce qui revient très souvent au public après nos concerts, c'est une musique de voyage. Une musique de voyage, c'est une musique qui est modale, une musique qui, ouais, si on peut apporter un peu de bien-être, un peu de bonne humeur, voilà, c'est vraiment notre réel but.
Et susciter aussi l'interrogation quand même, parce que beaucoup de gens nous disent effectivement, comme le dit à l'instant Pascal, merci, vous nous avez fait voyager. Alors ça, on est très content quand on nous dit ça, on est très content. Et puis, merci aussi du message.
Le message de nos autres invités, l'éclair est différent. C'est plus dans le monde du groove. Ils aiment que les gens bougent leurs pieds, leurs têtes, mais surtout leurs pieds. De toute manière, ils vont nous en parler dans quelques instants. Je vous propose de vous mettre en place avec le titre « Parapluie bulgare ». Le groupe L'éclair qui nous vient de Genève, c'est dans la session live sur RFI dans les musiques du monde. Thank you. L'éclair sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Musique du monde.
C'était l'éclair avec le titre Parapluie bulgare. L'éclair, c'est Sébastien Bu au clavier, Stéphane Lilov à la guitare, Elie Gersinou à la basse, Yavor Lilov à la batterie, Alain Sandry au mélotron et aux percussions et Quentin Pilet au bongo. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ?
Benoît Erard, aka Gerardo Havanas.
Et il jouait de quoi ?
Ingénieur son.
Ah oui, d'accord.
Parce que je, en il fait, jouait je... des boutons. On l'a oublié en fait, mais il fallait le dire.
Oui, d'accord, c'est parce que je regarde les musiciens qui sont derrière moi. J'avais écouté 6 et je me disais, mais qui est ce Benoît ?
Oui,
c'est vrai, c'est vrai. Donc l'éclair, au début du commencement du monde de l'éclair, vous étiez deux. Nous sommes à Londres, aux alentours de 2005. Il y a le colonel et
2015,
monsieur...
pardon.
C'était en 2005, c'est en 2015 Londres ?
Ah ouais, en 2005, j'avais 10 ans.
10 ans,
ouais. Oui, mais je vous voyais comme Mozart, 6 ans, déjà des symphonies, des opéras. Donc 2015, je vais engueuler Internet. Donc, vous vous faites appeler colonel et Mister ou Monsieur China. Donc, c'est Sébastien Bu et Stéphane Lilov. C'est vous, un petit peu, les deux papas, soyons modernes, de ce groupe. Vous faites des projets que vous allez réaliser en retournant à la source, c'est-à-dire la Suisse, à Genève. Alors, c'est un projet qui, au départ, pourrait être qualifié de projet mystérieux parce que vous arrivez avec des surnoms. Il y a pas, vous n'êtes pas tellement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour lancer votre groupe ? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait à Genève ? On arrive comme ça, alors... un peu masqué, avec... Non pas un casque sur la tête comme les Daft Punk, mais autrement.
Je pense que les deux premières années de ce projet, donc, qui ont commencé avec Seb et moi, on a surtout voulu en fait, se protéger en tant que groupe. En fait. Donc prendre vraiment le temps d'élaborer une esthétique, en fait, de travailler. Et puis on était déjà assez actifs dans d'autres groupes. Et du coup, ce groupe nous permettait de nous faufiler à des spots que nos autres groupes ne pouvaient pas être. Donc on se disait, mettons l'éclair. Et puis, de fil en aiguille, on a eu des meilleurs concerts. On a fait un vernissage au Parc Lagrange devant plus de 2000 personnes. Où en fait, c'était la première fois où on pouvait mettre...
Alors, le Parc Lagrange, pour
à Genève.
Pour un auditeur d'Abidjan, ça ne veut rien dire du tout. Alors, expliquez-moi, parce qu'il est resté aimé dans le monde entier, notamment en Afrique de l'Ouest.
C'est un très beau parc.
C'est juste un parc.
C'est un très beau parc à Genève qui organise énormément de concerts. Et puis, en fait, on a eu, le groupe est à peu près lancé à travers ce concert. On a sorti le premier album Cruise Control en 2017.
C'est un groupe instrumental. Il n'y a pas de mots. Pourquoi ?
Il n'y a pas de mots.
Il faut dire qu'il y en avait un peu à la base, mais ce n'était pas spécialement notre fort. Donc, on s'est dit. Plutôt que d'avoir des mauvaises voix, autant ne pas en avoir. Et puis c'est aussi un moyen de se démarquer parce que la plupart des gens écoutent de la musique avec des paroles, des voix. Et pourquoi aussi ne pas en faire sans, quoi ?
Oui, bien sûr, la musique sans mots, c'est...
Non, oui, non, bien sûr, je dis pas qu'on a inventé la musique sans mots. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une majorité de musique avec paroles et avec chants. Et que on n'est pas obligé de suivre ce dictat, il faut le faire comme on le sent.
Je pense que ça allait dans la direction de nos compositions qui se faisaient en fait, chez nous à la maison à travers facilitation du GarageBand ou du Logic et tous ces trucs. Et puis ça ne nous passait pas forcément, en tout cas nous quand on composait à la maison, pas forcément de paroles.
Est-ce qu'avec l'éclair et en faisant une musique instrumentale qui est quand même assez groovy, hein, c'est votre idée de départ, enfin, c'est ça qui vous réunit, qui vous unit. Est-ce que vous passez souvent en radio ? Est-ce que la musique instrumentale a la cote en Suisse ?
En fait, on était étonnés. Le premier était bien saturé, bien cradingue. Et il s'est vachement fait soutenir par Couleur 3. On en parlait avant le début de l'émission.
Couleur 3 qui est le troisième programme de la radio nationale suisse, de la radio suisse romande, donc... qui est la radio pour les jeunes créée en 1981 par Jean-François Acker et l'équipe de... Je connais un peu cette radio, si tu veux. beaucoup.
Ouais, je pense. Mieux que nous. Mais donc, on a été souvent assez surpris de... Oui, alors, le Polymood, on a eu Radio Nova qui a voulu jouer certains titres.
Radio Nova, donc c'est à Paris, donc, qui est la radio de Jean-François Bizot, Magazine Actuel, les années 80 aussi, qui a fait venir la musique africaine en France et à Paris. Ce sont des radios importantes.
Donc, on a été... les radios, c'est étonnamment, parfois ça marche, parfois ça marche pas, et puis parfois on se rend compte que ça devrait marcher, et du coup, la radio décide de nous mettre après. Donc, mais on est conscient que ce truc de musique instrumentale qui n'est pas forcément à mi-chemin du jazz ou vraiment de la musique électronique et qu'on se situe dans un truc un peu, comme certaines personnes ou certains amis aiment le dire, un peu un ovni, ce qu'on représente. Donc parfois, on marche au coup de cœur aussi.
Au niveau origine, vous êtes passé par les conservatoires, vous êtes tous autodidactes, comment ça se passe ?
On a tous eu quelques leçons de musique un peu pour débuter, mais personne n'a fait d'école ou de...
On a fait l'école de pratique instrumentale, l'EPI, à Genève, qui est entre... Enfin, moi, j'ai eu deux cours de théorie en 7 ans. De...
Et après, en fait, oh, on c'est pas grave, vous savez, il y en a qui disent qu'ils ont fait le Berklee College, ils se sont juste inscrits, puis en fait, ils sont partis aller jouer dans des clubs.
C'était plutôt une école de pratique qui, dès l'âge de 12-13 ans, nous mettait en fait en groupe, et puis on faisait de la musique, que ce soit des reprises de pop-rock ou des trucs comme ça, puis enfin, les profs nous encourageaient à composer aussi, donc plein de groupes de Genève sont un peu issus de ces ateliers qui étaient assez accessibles pour tous, parce qu'ils n'avaient pas vraiment... On a aussi une école de jazz, et puis ça, du coup, c'est un peu plus technique.
Je vous propose d'écouter un extrait du tout nouvel album d'Acpe Motion. L'album s'appelle Migration 2. Je ne sais pas si vous êtes Migration 2 ou Migration 2. Qu'est-ce qui vous arrange ?
Migration 2.
Non, parce que pour l'international, tout de suite, ça ouvre des portes invraisemblables. Non, je plaisante. Migration 2, c'est l'extrait qu'on écoute.
Je suis transie mais vivante. Ma sœur enveloppée dans une couverture tremble de peur et de froid. Elle n'arrive plus à parler. Ses lèvres sont bleues, ses mains meurtries. Beaucoup de cris, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Combien sommes-nous ici sur ce bateau qui nous a sauvés, nous autres naufragés?
Descubro tus desastres de repente. La injuria de tu bochornoso engaño. La muerte no sería suficiente para pagar el precio de tus daños. Arará.
Nous sommes dans ce centre balayé par des vents froids. Où est-on? Ils nous ont compté, recompté. Nous avons pris la nourriture tendue par des mains compatissantes. J'ai esquissé un sourire. Je ne savais plus ce que c'était de sourire.
Detesto tener que mencionarte. Y hasta soportar que te valoran. Verte convertido en estandarte. Saber que por tu culpa muchos lloran. Ará.
Kelly, Acha, où êtes-vous? Nous sommes partis ensemble de Libye. Acha, je te tenais dans mes bras quand le bateau a chaviré. Je me suis évanoui. Pourquoi suis-je encore en vie alors que tu ne l'es plus?
C'était Migration 2, signé Acpe Motion, avec ce s'il vous plaît. Vous avez vu que dans la presse, ils ont sorti il n'y a pas très longtemps tous les noms des gens qui s'étaient noyés dans la Méditerranée. Ce ne sont plus des chiffres, ce ne sont pas des statistiques. Il y a un prénom, un nom de famille. Il y a des gens qui sont liés aux autres. Il y a l'oncle, il y a la tante, il y a le médecin. Ça laisse un petit peu en suspension parce que c'est tellement énorme que des fois les mots sont un petit peu difficiles. Vous avez choisi quand même de vous reposer sur Patrick Chamoiseau et puis aussi sur cet autre monsieur Leroy Jones qui, durant sa vie, a changé de nom. C'était dans les années 60-70, il a africanisé son nom. Il s'est fait appeler Amiri Baraka, lui c'était Black Power, etc. Vous retrouvez dans leur manière de parler exactement les mots que vous auriez pu utiliser pour illustrer, d'une certaine manière, la situation aujourd'hui.
Concernant Leroy Jones, c'est difficile parce que nous ne sommes pas noirs. Il a vécu au contact des musiciens noirs, c'est un fan de jazz. Il a noué des contacts très étroits avec... notamment avec Archie Shepp, mais un certain nombre d'autres. C'est un peu différent. En tout cas, Chamoiseau, dans sa façon de, je l'ai dit, dans sa façon de décrire, même si le texte qu'on vient d'entendre là, n'est pas de Chamoiseau, c'est un texte que j'ai écrit.
Oui, bien sûr, sur la Syrie.
Moi, j'ai beaucoup été ému par ce. C'est un bouquin qui m'a touché. Et je me suis dit, mais on ne peut pas passer à côté de ça. C'est vraiment. C'est quelque chose qui est inspirant, en même temps dur, quoi. Enfin, c'est vraiment. Il faut digérer. il faut digérer. Et, bon, c'est notre façon à nous de protester d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est quatre, on fait quatre voix. C'est une façon à nous de protester et de dire, écoutez, allons vers un monde meilleur, car ce monde qu'on nous prépare est épouvantable. Qu'on nous prépare. On est un peu responsable aussi. Enfin, en tout cas, bon, voilà, ça c'est un vrai sujet, que ce sujet de gens qui viennent en Europe et qui sont très très mal accueillis, c'est un sujet très fort, sur lequel il ne nous paraissait pas possible de rester indifférent. Voilà.
Votre parcours, Alain Brunet, montre bien que vous avez, qu'il y a de l'humanité, de l'humanisme en vous. Je pense au travail que vous avez fait avec le Didgeridoo Orchestra, avec un chanteur aborigène, Joe Wandy. On vous retrouve après sur un projet qui met en valeur les compositions de Miles Davis et de Serge Gainsbourg. Ensuite, vous partez en tournée à Maurice, à Mayotte, Madagascar. Enfin, vous êtes aussi en Guadeloupe avec des musiciens guadeloupéens. J'ai l'impression que votre manière de vivre, votre manière d'appréhender la musique, c'est exactement la manière de vivre des premiers hommes sur Terre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chez soi et on est partout chez soi. Mais vous, vous êtes blanc, vous êtes français, vous avez un passeport qui vous offre peut-être quelques opportunités que d'autres n'ont pas. Je ne dis pas que vous êtes un privilégié, je suis pareil. Hein.
Oui, vous avez raison, je ne vois pas commenter ce que vous venez de dire. Oui, il y a une chose que je voulais rajouter, c'est que j'ai un souvenir extraordinaire d'une rencontre avec des musiciens iraniens, perses comme on veut. Parce que là, véritablement, avec trois semaines de travail à Téhéran, on a réussi à monter quelque chose de très bien. Malheureusement, le disque n'est pas sorti en France. Il a été primé en Italie, mais il n'est jamais sorti en France, d'un disque produit par des Iraniens. Mais la rencontre avec les Iraniens nous a fait toucher du bout, du doigt, juste un petit peu la culture perse qui est extraordinaire, vraiment.
Votre trompette a des quarts de ton ?
Non, du tout.
Du tout ? Ça ne vous intéresse pas ?
Non.
Non, c'était pour les musiques orientales.
Non, mais c'est pas inintéressant.
Parce que vous arrivez de la musique occidentale, le jazz, quand on rencontre des musiciens qui viennent de très très loin, on se retrouve des fois avec des gammes pentatoniques, avec des gens qui n'ont pas deux modes, un majeur, un mineur, mais qui en ont des dizaines. Le langage musical, j'entends bien, s'entendre avec les gens, une rencontre, mais après...
La musique modale permet de faire se rencontrer... sur tous les continents. Alors, on prend en compte effectivement des pentatoniques quand il y en a. Voilà, on a joué avec des musiciens kanak, dans des tribus kanak. Je trouve que la rencontre était bien.
Pascal.
Je pense qu'Alain, c'est un homme. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec Alain parce que c'était à la suite d'un festival de jazz, justement. Et quand j'emploie le mot jazz avec humanisme, je jouais avec Akpé, donc en trio. Et il est venu vers moi me disant j'aimerais bien venir colorer votre musique. C'est un petit peu la quête d'Alain aussi, de se confronter, le voyage, la rencontre. Et pas de chichi, pas de manière, on y va, 3-4. C'est ça le jazz. Là, on jazz, on échange, on partage. Et j'aime bien cette idée qu'on peut partager avec nos amis aussi musiciens, aussi bien Jean qui est rentré dans le groupe en 2013, qui est vraiment dans cet univers aussi, Mike aussi. Mike qui travaille avec Sonny Troupé aussi, entre autres. Qui est
un Guadeloupe.
Donc, c'est vraiment, vraiment ce qui nous intéresse. Et pour revenir aux Kanaks, ben les Kanaks, quand on est parti en Nouvelle-Calédonie et qu'on s'est retrouvé dans ces tribus avec tout ce backline, de revenir un petit peu comme on vivait peut-être il y a 100 ans, c'était bizarre. C'était vraiment une rencontre assez pleine d'émotions, remplie d'un joli message. Et de voir que ces Kanaks, par pudeur, n'étaient pas là à nous écouter. Ils étaient dans leur case. Et puis à la fin des titres, ils venaient autour de nous. C'était vraiment un grand moment. Un moment vraiment de partage et un moment musical, bien évidemment.
Alors les Claires, comment je vais présenter Castor McDavid maintenant ? Peut-être aller le jouer avec vos musiciens ?
Oui,
sans transition.
Simple,
allez, musique du monde avec les Claires.
Thank you.
Sinclair sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Music du monde sur RFI.
L'éclair avec le titre Castor McDavid. L'album s'appelle Sauropoda. Sébastien Buy était au clavier, Stéphane Liloff à la guitare, Elie Gersinou à la basse, Yavor Liloff à la batterie, Alain Sandry au mélotron, Quentin Pillet au bongo et Benoît Hérard, invisible dans son studio et du côté du son. Il ressemble à quoi ? C'est un grand blond, un petit brun, un rouquin ?
D'accord,
c'est bien.
Bon. C'est un très bel homme. Très
oui,
bel homme.
Bah écoutez, tant mieux. Dans votre bio, il y a un truc assez rigolo, c'est que votre album s'appelle Sauropoda et ça commence qu'attendre d'un album intitulé Sauropoda. Je vous écoute.
Nous, on le pensait un peu comme ces albums qu'on découvre par hasard à 2h du matin sur YouTube, sorte de pressage un peu inconnu. En l'occurrence, on avait un peu l'idée en tête de comme une espèce d'album de prog jazz des années 70, du RSS, un truc un peu vraiment inconnu et absurde.
Avec des pantalons assez larges, moule-boule.
Ouais, pas nécessairement moule-boule. Mais...
Regardez James Brown, ouais. Très rare d'avoir des pantalons très larges.
C'est difficile d'avoir le même niveau de pantalon que James Brown, faut le dire.
Oui, je comprends.
Danser comme James Brown aussi.
Oui, compliqué. Ça fait aussi un peu film érotique. Je ne sais pas si vous avez une culture de film érotique des années 70. Alors, vous n'étiez pas né, je sais.
Certains membres du groupe ont une grande culture en matière de film érotique,
oui.
Mais pas nous, malheureusement. Donc on ne va pas pouvoir vous en parler. Mais c'est vrai que par contre, on a joué en automne dernier à Munich à la fameuse Psychedelic Porn Party.
Psychedelic Porn Party.
Voilà. Porn Funk. Porn Funk Party.
Très bien. Et alors, ça s'est passé comment ? Vous avez fini dans quel état ?
Oh, alors.
Super.
À la verticale, toujours. Donc ça va.
C'est de la musique vraiment assez incroyable, quoi.
Et... C'est pas votre monde, Alain Brunet ?
Non, pas
mais,
trop.
Mais nature et découverte.
Absolument.
Voilà. Vous avez dit, c'est pas dans une interview, c'est dans votre biographie, que vous faites de l'exo-groove post-internet. Oh, je comprends qu'il faut donner des mots à des styles de musique. Exo-groove post-internet.
Ah, mais celui-là, pour le coup, on peut l'expliquer.
Ah, ouais. Bah écoutez,
ouais.
Je suis tout oui.
Exo-groove, donc exo, parce que on est pas mal, on est des assez gros fans de musique exotica et on considère qu'en fait, ce qu'on fait, c'est... en quelque sorte de l'exotica moderne, parce que l'exotica, c'était donc...
Comment vous définissez l'exotica ?
Alors, je vais essayer de la définir, c'est pas forcément la définition officielle, mais c'était un peu de la musique plutôt blanche, plutôt occidentale, mais dite d'ailleurs. Mais donc, la musique restait profondément occidentale, mais avec des instruments exotiques, et c'était pas mal, en fait, pour le public, du coup, occidental. Et nous, en quelque sorte, on fait ça parce que on s'inspire de plein de musiques de plein de continents comme l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique du Sud et du Nord. On en joue un peu notre projection comme c'était à l'époque pour l'exotica.
Oui.
Donc voilà, donc ça c'est pour la partie exo. Ensuite il y a la partie groove, je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup là-dessus.
Ça devrait aller. Et post-internet.
Et post-internet parce qu'on est clairement, on fait partie de la génération post-internet. En fait toute notre culture musicale a été grandement facilitée par l'accès très rapide à... pas tout le catalogue, mais une grande partie du catalogue mondial de musique en quelques clics. Donc en fait, ça réduit vachement les temps pour découvrir de nouveaux trucs. Et notre musique est vraiment influencée du fait qu'on ait eu accès à tout ça et qu'on ait pu en faire un peu une espèce de gros melting pot à notre manière.
Alors j'en profite d'avoir des gens qui sont nés avec le 21e siècle pour poser une question très simple. Est-ce que vous écoutez des albums du début jusqu'à la fin?
Oui.
Ou on pioche?
Oui, on est de grands défenseurs du format album.
Je me pose la question parce que se retrouver avec un appareil avec 1000 ou 2000 chansons, écouter ça dans le bus ou dans le métro, qu'est-ce que ça veut dire pour vous par exemple Alain Brunet?
Rien, parce que je ne suis pas du tout un adepte de ce genre. Moi la musique nécessite du silence, enfin, c'est un moment privilégié, donc je peux pas. Et puis je ne peux pas compiler des choses très vite, mon oreille fatigue très vite, donc on n'est pas la même génération, on n'a pas la même culture.
Pour nous, un peu la meilleure façon d'écouter de la musique, ça reste un peu chez soi, avec, dans le confort de son salon avec un bon vinyle, mais c'est juste qu'on se sert des différentes manières d'accéder à la musique pour juste écouter plus de musique.
Si je peux dire, c'est qu'en fait on s'est retrouvé plus précisément dans une espèce d'ère où en fait on ne pouvait pas forcément... On peut pas se permettre d'être fermé sur certaines influences, vu l'amas d'informations musicales qui vient en fait de la part aussi des labels de réédition qui font des travaux sur vinyle qui sont remarquables et donc qui nous permettent de redécouvrir des musiques assez cachées. Même sur le YouTube, même si voilà, il est critiquable ou pas, mais je veux dire, on est arrivé à un moment où nous-mêmes, on s'est senti un peu, mais on peut pas rester là à faire du rock ou je ne sais pas quoi, alors que là, je viens de tomber sur la musique togolaise qui est géniale et qui défonce, si on peut le dire. Mais voilà, en rapport avec votre voyage, et puis en fait, nous, c'était aussi notre manière à nous, en fait, nos générations-là, elles ont subi l'information à travers ces médias qui ont été créés un peu quand on avait encore 10-12 ans et qui ont évolué et qui maintenant, la recherche de l'information informations, un sujet assez intéressant à travers les médias, comment est-ce qu'on s'éduque à travers ces informations, etc. Nous, en tant que musiciens, on aime bien justement. Voilà, on profite en fait de tout ce catalogue, on essaye d'en faire bon usage et on essaye aussi de rendre hommage. Donc quand on s'influence de la musique africaine, etc., on essaye de toujours garder une certaine distance aussi face à ça, pour que ça soit aussi une forme d'hommage à cette musique et d'encourager aussi peut-être les gens à s'ouvrir un peu plus, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on est dans une ère qui est assez on écoute à peu près tous la même chose à travers les gros médias, etc. C'est un peu très très exigu en fait, et puis nous
en fait vous écoutez beaucoup de K-pop, parce qu'en Asie c'est la K-pop,
sans avoir aucune critique de la musique actuelle,
tout le monde apprend maintenant de la Thaïlande, le Laos, hein,
mais si on peut être une espèce de, une sorte d'intermédiaire pour aussi montrer aux générations avant nous et aussi aux autres, parfois on a des gens de toutes les générations qui viennent nous dire ah mais c'est génial, la dernière fois ce qu'on a eu c'est j'ai découvert Kamasi Washington grâce à vous. Je pense qu'il n'avait pas besoin de nous, mais c'est génial. Si, on a aidé à...
Motion, mais c'est parce qu'on est une radio internationale. Je pourrais les parler comme ça aussi, mais bon, je ne le ferai pas. Greg Howe, c'est le titre du morceau que vous allez interpréter. Akpé Motion sur RFI dans les musiques du monde. Émotion sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Sur RFI.
Greg House, signé Akpé Motion. Akpé Motion, c'est Alain Brunet à la trompette, Jean Gros à la guitare, Mike Armongom à la basse et Pascal Boutrin à la batterie. Je ne sais pas si vous avez aimé Mancini, Shaft, ce genre de choses, mais à un moment, ouais. avec... avec Jean Gros, on était absolument dedans. Qu'est-ce que Greg House est censé raconter, puisque cet album Migration 2 raconte?
Oui, Greg House, c'est un hommage à un ami américain. Chaque fois que nous partons sur Atlanta, à Atlanta, on loge dans une spectaculaire maison qui est vraiment très ouverte, dans la forêt.
Il s'appelle Greg.
Et il s'appelle Greg.
C'est une maison.
Donc c'est un hommage à Greg, tout simplement. Voilà, ce titre est parti de là. Ouais.
C'est une maison au bord de la forêt, magnifique, avec des grandes ouvertures. On y répète, on dort, on mange.
Donc voilà, c'est vraiment un réel hommage à cet ami.
Qui nous est précieux.
Oui, qui est un peu mécène, qui nous aide vraiment quand on est sur place.
Qui vous accueille.
Très attentionné.
Oui. Votre album s'appelle Migration 2. Alors je rappelle quand même que c'est un disque qui pointe évidemment les événements qui se sont passés dans le monde ces dernières années. On ne parle pas simplement des gens qui sont morts en Méditerranée. Il y a la Syrie qui est évoquée. Vous utilisez les mots de Patrick Chamoiseau. Vous l'avez déjà rencontré, Alain Brunet ?
Hélas, non. J'espère le rencontrer.
Après Acp Emotion, sur quoi vous allez partir tous les deux? Parce que vous êtes multi-projet. Quand on regarde la bio d'Alain Brunet, c'est une catastrophe quand on n'a pas de mémoire.
Oui, je crois que...
Il est encyclopédique, le monsieur.
Je crois qu'Acp Emotion, c'est très ouvert. C'est vraiment... là, c'est vrai qu'on a sur cet album invité un rappeur, Houston d'Atlanta, histoire d'amener une couleur aussi autre.
Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est Prince Lo Show.
Oui.
Vous avez repris la
Prince,
voix.
Oui,
Prince, vous le connaissez bien, Alain.
Oui,
vous
c'est un, là, il joue le rôle d'un slammer, toutes choses égales par ailleurs. Il parle parce qu'il a une très belle voix. Il a vous avez vu cette voix profonde. C'est à l'origine un batteur, c'est un chanteur, et là, on l'a utilisé dans un rôle qui me paraît où je crois qu'il est vraiment bien. C'est celui de dire un texte de Laura Jones. Au fond, il y a des similitudes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé des similitudes entre le combat des Noirs aux États-Unis, qui est loin d'être terminé. Et puis, le combat des migrants pour se faire admettre, ici, en Europe.
Vous avez tapé dans l'universel, cher ami. On va terminer cette émission avec un extrait du nouvel album de L'Éclair. L'album s'appelle Sauropoda. Le titre choisi, c'est Still Steve. Est-ce que vous avez un mot?
Souvent, nos noms de morceaux, vu qu'on chante pas, on doit... soit c'est un peu des gags entre nous. Soit... Là, en fait, ça tombe bien, c'était une interview radio qu'on a eue en Hollande et... On n'arrêtait pas de m'appeler Steve, en fait. Et du coup, on s'est dit, Still Steve.
Du coup, on s'est tous appelés Steve pendant 3 semaines après cette émission.
Écoutez, Steve, ouais. Merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que votre autre nom, c'est L'Éclair. Je remercie également tout le groupe Acp Motion d'être passé dans ce studio. De l'autre côté de l'aquarium, il y avait Fabien Mugneret, Benoît Le Tyran et Taguim Fatraoré. À bientôt, oui.
Je rajouterais que Sauropoda sort sur les disques Bongo Joe.
Ah, Bongo Joe, encore une référence au blues américain. Bravo, bien joué. Merci, applaudissez-vous, vous avez été trop bon. Thank you.